Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivaine et philosophe Eliette Abécassis, qui nous parle de Sefer, l'épopée millénaire de la Bible, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Bonsoir Eliette.
Bonsoir Sandrine.
Alors est-ce qu'on a besoin de vous présenter encore une fois sur l'antenne de Radio Shalom ? Vous êtes ici chez vous et c'est un vrai plaisir à chaque fois de vous recevoir.
Et réciproquement, c'est un plaisir d'être là.
Votre actualité, c'est la parution de Sefer, l'épopée millénaire de la Bible, qui vient de paraître chez Albin Michel, on l'a dit. Alors c'est l'histoire d'une collaboration heureuse avec l'illustrateur Nejib pour raconter l'histoire du livre le plus lu au monde, le plus fédérateur, mais aussi le plus attaqué, la Bible. Au moins 3 milliards d'êtres humains le tiennent pour leur texte saint, d'autres comme la plus jolie fable de tous les temps. Et dans ce roman graphique, vous relevez le pari fou de rendre accessible à tous les publics l'histoire épique du livre avec un L majuscule et de répondre aux questions principales qu'il pose. Comment la Bible est-elle née ? Par qui a-t-elle été rédigée, mais aussi protégée et perpétuée ? Et Moïse aurait écrit ses livres dans le désert, mais qui connaît ses autres rédacteurs ? Alors le scénario débute chez vos parents, Janine et Armand Abécassis. Votre père vit en ascète depuis qu'un Anglais lui a déposé un parchemin qu'il recopie en le calligraphiant. Et quel est ce parchemin qui canalise tout son temps ? Eh bien, je vous cite, « Le livre le plus lu, le plus commenté, le plus important de l'histoire de l'humanité, la Bible. » Et le prétexte est saisi pour nous raconter non pas la Bible, mais comment elle a été écrite. Et plusieurs chapitres se déploient ensuite. Moïse et les tables de la loi, l'Arche d'Alliance, Ezra, la Septante, la disputation du roi Saint-Louis, Aboulafia et l'Inquisition, la destruction du peuple des livres. Et cela donne un voyage inédit dans les représentations de la Torah. Alors racontez-nous, comment est née l'idée de ce livre ?
L'idée est née de raconter non pas la Bible, c'est-à-dire les histoires de la Bible, mais comment la Bible a été écrite. Et c'est une idée que j'ai depuis longtemps. C'est un petit peu une obsession depuis Qumran. Et c'est en fait le livre de tous mes livres parce que on commence avec la découverte dans Sefer, avec la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Et puis, on va parcourir les époques, le Moyen-Âge avec cette disputation entre théologiens chrétiens et rabbins sur faut-il brûler le Talmud ? Et là, on retrouve mon livre Le Maître du Talmud, l'Inquisition espagnole, et je pense à mon livre Sefara. Donc, c'est un petit peu, un aboutissement de, 20, 30 ans de réflexion sur cette histoire extraordinaire qu'est l'histoire du judaïsme et de la pensée juive. Et jusqu'à la transmission, livre que j'ai écrit sur mon père il y a 2 ans. Et c'est pour ça que effectivement dans Sefer, c'est mon père qui me raconte toute cette histoire. Et j'ai voulu faire un roman graphique. Donc j'ai cherché un illustrateur et j'en ai parlé à mon éditeur chez Albin Michel, mon éditeur qui s'appelle Martin Zeller. Et c'est lui qui m'a présenté Nejib j'ai lu ses livres comme Stupor Mondi, qui est un livre qui ressemble un peu au Nom de la Rose. Donc j'ai vu qu'on avait le même maître, c'est-à-dire on aime les thrillers ésotériques, mystiques, mais aussi la narrativité de la connaissance, comme le dit Umberto Eco, c'est-à-dire cette façon de prendre le lecteur par la main et de l'entraîner dans une enquête qui va lui faire découvrir un univers. Et donc on s'est rencontrés on a eu tout de suite le sentiment d'être des frères d'art, frères et sœurs d'art, pas d'armes, mais vraiment on avait la même vision de ce que nous voulions faire, la même vision de la religion aussi, même si nous ne sommes pas de même religion puisque Nejib est musulman. Et on s'est rencontrés vraiment sur une spiritualité en commun et puis une envie d'écrire ce livre.
Donc vous, pour le scénario, Nejib, pour les dessins et la mise en couleur, vous l'avez dit, hein, vous êtes issus de cultures différentes. Est-ce que ça a été des atouts pour réaliser cet ouvrage ?
Oui, Parce que, en fait, je n'avais pas à lui expliquer pourquoi on ne peut pas dessiner Dieu, par exemple, un certain rapport au sacré. Et puis aussi le fait de raconter une histoire qui se passe dans un univers religieux à partir d'un texte, je pense que c'est quelque chose qui lui parle et qui est en commun entre juifs et musulmans. Et puis, on parle tellement souvent de toutes les guerres, mais y a des ententes extraordinaires, formidables, et puis il y en a plein. Et voilà, et c'est beau d'arriver à créer ensemble et dans un même élan, avec une même vision de ce que peut être une spiritualité ouverte et généreuse.
Alors l'exercice est un peu différent de vos romans habituels, c'est un roman graphique, hein, une sorte de bande dessinée où vos propos illustrent des visuels, à moins que ça ne soit l'inverse. Est-ce que c'était une expérience enrichissante, facile pour vous ?
Oui, c'était enrichissant, facile non, parce que c'est complexe, parce qu'il faut tout scénariser. Donc ça a pris 3 ans et c'est un long travail, et surtout le dessin en fait. À un moment donné, ça s'accélère, mais c'est vrai que c'est long et enrichissant extrêmement. Moi, j'ai écrit là, en tout, je dirais près de 30 livres. Et en fait, ça veut dire que j'ai passé énormément de temps toute seule, parce que c'est un travail très solitaire d'être écrivain. On est souvent devant sa table de travail et le soir, j'ai envie de voir du monde, des vrais gens, parce que sinon, on est tout le temps avec ses personnages. Et le fait de créer à deux, de créer ensemble et d'avoir Négib avec moi et dans cette réflexion et dans cette création, moi je trouve que c'est très exaltant.
Alors pourquoi un roman graphique ? Est-ce que c'est pour coller dans l'air du temps, pour diffuser un message finalement accessible pour toutes et tous ? Quelle était la motivation ?
Oui, c'est ça. C'est parce que je pense qu'il faut... un roman graphique, ça s'adresse, Marc-Alain Wagnin dit de 5 à 120 ans, voilà, pour pas dire de 7 à 77 ans, mais ça s'adresse vraiment à tous. Et puis, ça peut se lire à plein de niveaux. Et c'est ça que je voulais effectivement avoir un message universel et faire un livre qui soit à la fois substantiel et populaire. Et puis, je crois qu'on est dans une sorte d'âge d'or, en fait, de la BD, où la BD devient artistique et intéressante et vraiment intelligente. Et c'est pour ça que je voulais, pour raconter cette épopée, eh bien, j'avais envie aussi de voir les personnages, de voir les scènes, un peu comme dans un film.
Alors, c'est faire l'épopée millénaire de la Bible, c'est le titre. Les présences paternelles et maternelles traversent plusieurs de vos livres. Alors, vous avez cité le dernier Transmission, mais celui-ci non plus n'y déroge pas. Et donc, sous votre plume, le philosophe et exégète, Armand Abbé Cassis est encore une fois le personnage principal. Et on sent qu'il y a plusieurs de ces phrases qui sont citées, eh bien, qu'il aime à rappeler, hein, qui pourraient être en fait ses maximes préférées, qui sont bien écrites noir sur blanc dans votre livre. Alors j'en cite une, hein. Les Juifs ne sont pas le peuple du livre, mais celui de l'interprétation des livres. Est-ce que vous savez pourquoi c'est une de ses phrases préférées, cette citation ?
Parce que je pense que c'est la phrase qui résume le mieux toute sa pensée. C'est un peu le pitch d'Armand Abbé Cassis. Il a fait sa thèse sur l'interprétation avec Lévinas. Et c'est vrai que c'est vraiment le sujet central de sa réflexion sur la pensée juive, c'est-à-dire comment la pensée juive consiste à interpréter, à réinterpréter, à réactualiser les choses à chaque époque pour sortir définitivement de l'emprisonnement du texte et du dogme. Et c'est pour ça que c'est au centre aussi de cette histoire de Sefer, c'est-à-dire que là, on a un texte, et ce texte, dès qu'il est donné, enfin la première fois, donc en fait, on va dire que c'est les 10 commandements qui après ont été placés dans l'Arche d'Alliance, qui ont été perdus, mais... ce texte, à la fois, nous sommes fidèles à ce texte et on lit ce texte sur des rouleaux de façon immuable depuis Depuis que nous existons en tant que peuple, enfin depuis en tout cas que Ezra a codifié le texte sous forme de la Torah. Et en même temps, ce qu'il y a de fort et d'incroyable, c'est que nous l'interprétons avec le Talmud et puis les discussions rabbiniques et puis les kabbalistes et le Midrash et tous ces commentaires qui vont libérer le texte et qui vont faire en sorte que on va pouvoir le lire et le lire et qu'il soit pertinent à chaque époque. Et ça, c'est vraiment la magie de ce texte et c'est vraiment notre trésor, l'interprétation du texte.
Alors, pertinent à toutes les époques, mais aussi pour tous les publics, hein, vous le disiez il y a un instant. Et il y a deux éléments, enfin, il y en a davantage, eh bien, qui montrent, en fait, vous mettez en avant l'universalité du livre. Vous le soulignez, par exemple, au début, le manuscrit que recopie votre père, eh bien, je vous cite, hein, c'est la plus ancienne version rédigée en grec au milieu du IVe siècle sur un parchemin en peau de bête par les moines du monastère Sainte-Catherine au Mont Sinaï. Les moines. Ensuite, il y a ce chapitre sur la Septante qui rappelle comment 72 sages ont traduit à l'identique la Torah en grec. Ça aussi, c'est important, cette insistance sur le fait que la Torah, en fait, concerne l'humanité en son entier.
Oui, c'est ça, le thème de la Septante vers le IIIe siècle, quand le roi Ptolémée, qui avait réuni tout le savoir du monde dans la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, s'est aperçu qu'il en manquait un et c'était la Bible et il a voulu faire traduire la Bible. Et là, il a fait venir ses 70 sages et en fait, la légende raconte qu'il y a une sorte de miracle, c'est-à-dire qu'ils ont traduit par les mêmes mots. Mais en tout cas, la traduction, effectivement, pose la question du message universel et de l'universalisation du message. Et oui, bien sûr, c'est important de communiquer et de savoir parler toutes les langues pour que le message soit diffusé, parce que ce message, quel est-il finalement? C'est les 10 commandements, c'est tu ne tueras point. Et ce message est essentiel. Et c'est pour ça que ce message est au cœur de notre trésor, ce séfer, ce rouleau, et qu'il faut arriver à le traduire, mais symboliquement, ça veut dire à le transmettre.
Et on en revient à Emmanuel Levinas, hein, vous avez cité. Il était proche de votre papa qui disait que le début de l'altérité se trouvait justement dans le « tu ne tueras point », que la vie d'autrui devient plus importante que la sienne. Et oui. Là, on est dans le début de l'éthique et de la parole du judaïsme. Alors j'aimerais vous citer aussi, parce que je trouve ce passage audacieux et terriblement courageux par rapport au fondamentalisme qu'on peut aussi trouver dans le judaïsme. Donc je vous lis. « En vérité, papa, que s'est-il passé au Mont Sinaï? Dieu a-t-il vraiment dicté les paroles à Moïse ?» Dictée de Dieu, inspiration divine, source égyptienne, mésopotamienne, héritage du code de Hammurabi établi par le roi de Babylone en 2000 avant notre ère, nul ne sait. Figure-toi qu'on pense qu'il y aurait plusieurs auteurs de la Bible, plusieurs auteurs, oui, car on a identifié plusieurs styles différents dans le texte. L'éloïste, donc qui a bossé sur la Genèse, le sacerdotal, c'est plus sur l'Exode, le Yaviste, qui a unifié pour éviter les incohérences, et puis Moïse, les sources orales, les paroles écrites au futur, des messages d'espoir quoi ? Des messages d'espoir.
Mmh. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage ?
Oui, c'est ça, c'est le passage où c'est fondateur, en fait. L'histoire commence effectivement avec Moïse et puis je lui demande mais alors finalement qui a écrit la Bible, qui a écrit les 10 commandements et là je retrouve vraiment la façon de penser de mon père qui est théologien, penseur du judaïsme mais je dirais aussi fondamentalement philosophe et ce qui l'intéresse c'est pas la vérité, que ce soit la vérité historique ou la vérité théologique ou le dogme. En fait, c'est cette interprétation du dogme qui va faire qu'on va se concentrer sur le sens. Quel est le sens? D'où ça vient? Bon, ok, chacun a son interprétation de la révélation. Il y a eu une révélation, effectivement. Mais quel est le sens de cette révélation et quel est le sens pour l'homme?
Alors avec ce livre, c'est faire l'épopée millénaire de la Bible, eh bien il y a tous vos thèmes de prédilection présents une nouvelle fois, le judaïsme, son peuple, son histoire, ses livres, sa religion, son âme, liés à la famille et à la transmission d'un héritage. Est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait être ça un peu la problématique de votre œuvre? Le judaïsme, la transmission et la famille?
Oui, finalement, en réfléchissant, je me dis c'est la transmission peut-être qui va rassembler mon œuvre. Et en tout cas, aujourd'hui, ça me paraît essentiel, la transmission. J'ai une newsletter qui s'appelle ainsi « La transmission ». Et ça recouvre un peu tout. Ça pose le problème, à mon avis, le problème le plus important de notre époque. Que transmettre? Et comment transmettre? Et il y a la transmission horizontale, c'est-à-dire cette profusion, ce flux de nouvelles, de réseaux sociaux, de notifications et d'informations, quoi, qui nous vient sans cesse, et surtout pour les plus jeunes générations. Mais il est important aussi de garder la transmission verticale. C'est pour ça que le livre commence ainsi, c'est-à-dire c'est un père qui va expliquer à sa fille, et il y a aussi le personnage de ma mère, puisque ma mère est professeure aussi. J'ai deux parents professeurs, donc deux parents qui ont voué toute leur vie à la transmission jusqu'à aujourd'hui, où ils continuent d'enseigner, d'écrire. Et c'est vraiment le but et le sens de leur vie. Et cette transmission verticale, donc de parents à enfants, de grands-parents, de nos aïeux, mais aussi de Moïse à ses disciples, et puis ainsi de suite aux prophètes jusqu'à nous, c'est essentiel pour donner un sens et une inscription de notre être, de nous les hommes, dans une temporalité, dans quelque chose qui nous dépasse, mais qui va finalement orienter notre vie et lui donner un sens. Sinon, si on se limite à juste la transmission horizontale de tout ce flux, on a un sentiment de perte de sens, et aussi que la vie nous échappe et qu'on n'est plus rien, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens à la transmission et je prêche la transmission.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie d'Eliat Abekassis, qui nous parle de son actualité, la parution de Sefer, l'épopée millénaire de la Bible, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Ce titre de Sefer, donc ce mot resté en hébreu, il y a eu une hésitation ou pas du tout dans le choix du titre?
Alors oui, c'est drôle parce que moi je ne pensais pas forcément à... Enfin, je ne pensais pas à ce titre. Et c'est finalement Martin Zeller, Albin Michel, qui a dit « Mais c'est Sefer, ça doit être ce mot-là. » Parce que oui, c'est un mot hébreu, énigmatique, mais en même temps, c'est le rouleau. Et tout part de ce rouleau, puisque je vois mon père en train de recopier un rouleau et je lui dis... Et je me dis, tout d'un coup, je me dis « Mais c'est quand même fou à l'ère du numérique. » Je veux dire, on a même dépassé le livre là, au stade où on en est, où on peut avoir toute la Bible à portée de main sur son portable. Il y a même le Daf Yomi, on peut avoir la page du Talmud que tout le monde va étudier en même temps chaque jour. On peut avoir tout ce qu'on veut. Et nous, en fait, les Juifs, on en est encore à recopier comme des scribes, comme il y a 2000 ans, avec une plume, de l'encre, les lettres de la Torah, et à se réunir une fois par semaine, donc en fait pour lire la Bible tous ensemble. Et ça nous vient de Ezra. Ezra, qui est au retour de Babylone, a vu que les Juifs avaient complètement abandonné le judaïsme et que le peuple allait se perdre. Et c'est lui qui a dit, bon, à partir de là, nous allons être le peuple du livre. C'est-à-dire que c'est lui qui a écrit toute cette tradition orale qui se disait en fait de maître à disciple, qui a décidé de former le canon biblique, ça c'est une chose. Mais deuxième chose, il a décidé que ce rouleau allait se lire une fois par semaine dans un lieu qui s'appelle la synagogue. Il a créé les synagogues et il a organisé le judaïsme avec cette patrie portative, puisque lui, c'était un exilé qui revenait de Babylone. Et donc, en fait, il s'est dit, il faut que nous ayons une patrie, que nous puissions avoir d'abord en nous, dans notre esprit, dans notre cœur, et puis un rouleau que l'on puisse emporter partout. C'est ainsi que nous allons survivre, et c'est ainsi aussi que le message va survivre. C'est pour ça que c'est tellement important, c'est faire le rouleau et de le lire, effectivement, de se rassembler. Et puis même s'il n'y a plus de livres, maintenant on se demande quel va être l'avenir des livres et de la littérature, il restera, le rouleau restera, et le fait de se réunir et d'entendre le rouleau restera. La transmission se fera de façon orale, mais toujours à partir d'un texte, et ce texte restera central.
D'où le mot aussi millénaire dans ce sous-titre, qui montre aussi eh bien, que c'est une histoire qui continue. Alors justement, vous nous avez parlé de l'exercice solitaire qui était la rédaction d'un livre, notamment celui-là qui a duré 3 ans. Est-ce que vous pensez à sa réception quand vous écrivez, pour qui vous l'écrivez? Est-ce que c'est pour l'histoire? Est-ce que c'est pour être le passeur de l'héritage de la religion de vos parents? Est-ce que c'est pour rendre hommage à un savoir? Est-ce que c'est pour transmettre à vos enfants? Est-ce que c'est pour faire passer des messages à l'heure où eh bien, le livre est délaissé au profit des écrans et du portable? Quel est le message en fait?
C'est un petit peu tout ça, et à travers cette histoire pleine de rebondissements, parfois écrite comme un western, avec beaucoup d'humour, parce qu'on a vraiment emprunté les codes de la BD, et qu'à chaque époque, en fait, on traverse beaucoup d'époques, donc Alexandrie, le Moyen-Âge, l'Inquisition espagnole, jusqu'à la Shoah, et à chaque fois avec ces personnages, et puis parfois de l'humour, et puis tellement de tous ces personnes qui veulent à chaque fois attaquer ce livre, le brûler, ou alors ça commence avec l'Arche d'Alliance, les Philistins qui le volent, et puis jusqu'aux nazis qui vont en fait piller les bibliothèques, non pas pour brûler les livres, mais en fait pour constituer une sorte de grande bibliothèque juive. Les nazis ont pris, avec l'émissaire de Hitler, Rosenberg, des centaines de milliers d'ouvrages dans toute l'Europe pour les réunir et les capter. Eh bien, ce livre, miraculeusement, à chaque fois, il y a quelqu'un qui le sauve et il reste vivant jusqu'à nous. Et donc le message, c'est que c'est notre trésor et il faut à tout prix le préserver.
Alors vous savez ce que j'ai aimé particulièrement, hein, je vous dis tout dans ce livre, c'est le partage qu'il peut induire. C'est-à-dire que quand on a des enfants, des petits qui ne savent pas lire, eh bien, un peu comme un livre pour enfants, mais aussi pour des enfants plus grands qui seraient à côté, eh bien, on tourne les pages, on leur montre les images, on leur raconte, on leur ressort certains passages qui font sens et qui sont importants. Et en fait, c'est un livre qu'on peut lire en famille. Est-ce que vous l'avez perçu comme ça aussi? Est-ce que ce n'est pas aussi l'apanage du roman graphique, finalement, d'être eh bien, accessible à tous et de permettre d'être raconté, montré à plusieurs personnes en même temps?
Oui, c'est ça. Vous savez, quand j'étais petite, on nous faisait dessiner la Bible. Enfin, chaque paracha, chaque semaine, on dessinait la
paracha. L'illustration.
Ouais. Et à la fin, on nous a fait, quand j'étais à l'école maternelle, on a collé toutes les illustrations. Et puis chacun, on est parti avec notre petit rouleau. Et oui, bien sûr, alors il y a les illustrations. Donc en fait, ça va parler aux enfants. Ils vont pouvoir regarder les illustrations. Et puis, il y a les explications assez substantielles de mon père quand même, qui vont, j'espère, éclairer, enfin intéresser les adultes. Et puis, il y a cette histoire qui ressemble à un western, qui ressemble à quelque chose comme Indiana Jones. Il y a un côté Indiana Jones qui va plaire aux ados. On l'a conçu et on l'a voulu comme ça pour être lu par toute la famille et puis à différents niveaux de lecture.
En tout cas, chapeau bas, parce que chacun peut y picorer le niveau de lecture qu'il souhaite. Ceux qui ne savent pas lire regardent les images, les autres eh bien, lisent ce roman graphique qui est plus accessible qu'un roman ou qu'un commentaire de texte. Et puis quand on est plus âgé, eh bien, il y a voilà, toute la philosophie de votre papa en dialogue avec les sources de la tradition juive. Donc, je pense que c'est vraiment l'ouvrage à avoir dans les familles, quelles qu'elles soient, pas seulement les familles juives. Donc, vraiment, bravo.
Merci beaucoup.
Alors, il y a une question classique, mais non moins difficile, vous le savez, pour terminer cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire ce roman graphique, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais que c'est un roman qui va à la fois les distraire. C'est bizarre parce que c'est complètement distrayant. C'est plein d'humour. C'est extrêmement léger. Et en même temps, c'est pas bon, c'est un peu immodeste de le dire, mais en même temps, c'est pas mon message, donc c'est pas grave. Moi, je suis que le serviteur. La servante de ce message. C'est un roman très léger et en même temps, c'est un roman très, très important qui a un message qui est absolument essentiel sur la transmission, sur le judaïsme et tout simplement sur le sens de l'existence.
Avec beaucoup de profondeur, il faut vraiment insister de dire dans des bulles, dans des textes très courts, des messages essentiels. Et quand vous dites que vous avez travaillé 3 ans, eh bien on le comprend parce que c'est efficace, c'est accessible à tout le monde. Et puis en même temps, c'est résumé avec des chapitres qui sont essentiels. En plus, vous avez choisi des thématiques différentes pour raconter cet ouvrage, cette histoire millénaire de la Bible, Sefer. Donc félicitations.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc je rappelle le titre du livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, c'est faire l'épopée millénaire de la Bible, donc vous pour le scénario et Inégible pour les illustrations. Bonsoir et à bientôt.
Bonsoir.